Bien, alors, nous abordons maintenant donc la deuxième partie de cette séance sur un thème qui va en fait on peut dire en partie connexe puisqu'il s'agit des réappropriations contemporaines du Shahnamé. On se déplace là, nous étions en Iran, nous allons dans le Touran. Puisqu'il s'agit de l'Asie centrale moderne et contemporaine. Alors, Svetlana Gorchenina est elle-même une touranienne, puisqu'elle est née à Tashkent, où elle a commencé ses recherches en s'intéressant aux cercles intellectuels à l'époque tsariste qui ont été les fondateurs de l'étude scientifique et notamment archéologique de l'Asie centrale. Elle est ensuite venue en Europe. Elle réside à Lausanne. Actuellement, elle est maître de conférence invitée au Collège de France. Elle a beaucoup publié, son œuvre s'exprime principalement dans deux catégories de publications. Ce sont beaucoup de catalogues d'expositions, des catalogues d'albums, des dictionnaires visent tous à donner une image aussi complète que possible du regard des voyageurs sur l'Asie centrale à l'époque tsariste et avant la grande fermeture des années 30. Et puis d'autre part, sa thèse dont elle a maintenant extrait deux ouvrages, un ce qui s'appelle Les faiseurs de frontières, sur la manière dont à l'époque soviétique l'Asie centrale a connu ce qu'elle n'avait jamais connu auparavant, c'est-à-dire un découpage politique dont les conséquences se font encore ressentir aujourd'hui. Un second ouvrage sur le concept d'Asie centrale tel qu'il s'est construit dans la littérature géographique. Et puis, elle a un troisième livre en préparation qui va s'appeler « Les faiseurs de patrimoine sur la manière dont le regard contemporain s'est développé autour de l'extraordinaire patrimoine monumental et artistique de tous les âges légué par l'Asie centrale, là encore en commençant à l'époque tsariste et en poursuivant jusqu'à l'archéologie la plus contemporaine. Voilà, alors aujourd'hui elle va donc nous parler du rôle du Shahnamé dans les constructions identitaires modernes en Asie centrale et je lui laisse la parole.
Merci Franz, je remercie aussi vous pour cette invitation qui m'offre cette possibilité de présenter ce processus de construction identitaire en Asie centrale. Ici, les premières communications se ressemblaient à une sorte de petite flûte très douce qui vous introduit très doucement dans un monde littéraire où un écrivain féministe construit une image en s'inspirant des Shahnamé. Et ma présentation, je peur, ce sera plutôt des fanfares, parce que je vais parler des mélanges des idées qui ont été exprimées par des hommes politiques, par des historiens, par des écrivains. Et de temps en temps, ce n'était pas ni doux, ni très gentil. Donc, très souvent, ça prenait plutôt la forme d'une véritable lutte. Donc, je pars dans ma communication de l'idée que l'identité nationale, les mémoires collectives et les patrimoines qui les supportent, ce sont des produits, des activités délibérées des hommes politiques, des intellectuels, des artistes, des historiens, et que donc finalement dans ces discussions qui ne sont pas toujours très simples, et il y a cette construction parfois amorphe, parfois très ambiguë, qui est l'identité nationale. Donc, comme je dis, ce processus, il passe sur une longue durée. Et en gros, à mon sens, pour pouvoir comprendre le bout et le début de ce processus, il faudrait faire des véritables fouilles archéologiques et notamment essayer de voir comment Shahnameh a été utilisé et donc étudié et instrumentalisé à l'époque soviétique et même aller plus loin jusqu'à l'époque tsariste. De l'autre côté, je voudrais dire que, comme on voit par la suite, le culte du Shahnameh, il était construit essentiellement dans le pays du Sud. Donc, nécessairement, on retombe dans cette opposition, le Nord et le Sud. Donc, et pour analyser cette construction identitaire en Asie centrale, il faudrait également tenir compte de cette fond de toile qui est le toile colonialiste, impérialiste, donc et de discours orientalistes qui ont été conçus sur la base de Shahnameh en particulier par rapport à l'Asie centrale en général. Donc l'ancrage spatial, géographique du Shahnameh, il est très important. Donc cette épopée qui couvre déjà chronologiquement des périodes assez importantes, donc on peut discuter comment on partage cette narrative. Donc, mais au niveau géographique, comme vous pouvez voir ici, donc ça peut aller de la Turquie, en couvrant bien évidemment l'Afghanistan, les stans de l'espace post-soviétique et le Caucase. Mais si on suit les résultats des recherches qui ont été effectuées par un chercheur tadjik, on peut aller beaucoup plus loin. Donc on va jusqu'à la mer Noire, la Volga, même donc il propose aller jusqu'à l'Italie en faisant un petit parcours par l'Espagne, je m'en entourerai ici, donc en arrivant en Éthiopie et en allant jusqu'au Bangladesh, l'Inde, donc l'Océanie et passant bien évidemment par l'espace post-soviétique. Donc en contrastant avec cette image géographique, nous pouvons dire que le potentiel symbolique du Shahnameh, il est utilisé dans quelques pays, notamment donc l'Iran, l'Afghanistan et le Tadjikistan. Si on regarde la documentation qui est le plus consultée par nous tous, comme Wikipédia, donc pour faire des premières idées, on voit que Wikipédia parle évidemment de l'Iran, qui a fait un véritable culte du Shahnameh. Il nous parle de la Géorgie, qui a, d'après donc, ses sources de, pour le large public, a bien ressenti l'influence du Shahnameh au niveau de sa littérature populaire. Et donc, il parle du de la Turquie, mais il fait l'impasse sur d'autres pays qui sont quand même été influencés par le Shahnameh. Bien évidemment, donc, l'Iran il est mis en tête de cette commémoration, mais c'est très intéressant parce que c'est justement des intellectuels du gouvernement de l'Iran qui ont initié les premières célébrations du Shahnameh, notamment donc, le premier jubilé des milléniums du Shahnameh qui a eu lieu en 1934. Après, il y a eu des premiers colloques qui étaient consacrés à Ferdowsi Shahnameh en 1968 à tous. Et ici, on peut aussi voir des choses intéressantes, qu'on a une sorte de mariage de deux traditions. D'une part, c'est le Shahnameh, et d'autre part, c'est le regard européen qui était formé par rapport à l'histoire de l'art. Donc, on a des travaux des Allemands Hersfeld et Américains Pope qui ont choisi quelques chefs-d'œuvre parmi les objets d'art et parmi les objets d'architecture en Iran et qui ont créé donc l'histoire de l'art avec une sorte de musée universel imaginaire où justement il y a ces objets d'art. Et donc ces idées, il plaisait beaucoup à Reza Shah, au régime Pahlavi. Et en gros, quand on a commencé à commémorer Shahnameh de Ferdowsi, il y a eu ce mariage des traditions achéménides et donc ces poèmes épiques de Ferdowsi. Et ces mausolées de Ferdowsi qui étaient conçues par un architecte français en 68, c'est une sorte de l'orientalisme avec des références à ces évidences qui ont été prouvées dans cette histoire universelle de l'art. Donc j'ai mis ces deux photos côte à côte pour que vous puissiez voir à quel point les parallèles entre le mausolée de Ferdo aussi de André Gadart et assez proche de ces mausolées de Sirius à Pasargad. Une autre chose qui est assez amusante, mais peut-être ça vaut le coup de le dire, en 1995, une de mes collègues qui a visité la place, il a entendu comme la musique de fond le Requiem de Mozart qui souligne encore cette espèce de européisation de cette vision. Mais comme je dis, donc au niveau des connaissances assez basique, le Tadjikistan, une des piliers des commémorations de Ferdowsi dans l'espace soviétique, il n'est pas trop ni connu ni mentionné. Pourtant, c'est d'après un sondage qui a été effectué par les chercheurs russes en 2009, le Tadjikistan, après la Géorgie, donc c'est le deuxième pays qui s'intéresse le plus dans l'espace soviétique à son propre histoire. Il fait l'histoire des références constantes de toutes les activités politiques ou culturelles. Pourtant, qu'est-ce qui s'est passé avec ce retour du Shah Namé, si on peut dire le retour, parce qu'il n'a jamais disparu de la raison. Donc, justement, après le lendemain du chute de l'URSS, au mois de septembre de 1991, sur la place centrale de Dushanbe, la capitale du Tadjikistan, ces statues de Lénine, qui, donc, ici, vous pouvez voir comment elles étaient visibles les années 50, donc, après, il était démonté, détruite, et à la place de ces statues, on a érigé les statues de Ferdowsi. Il n'est pas resté sur cette place pendant un long moment. Déjà en 1999, il était rapidement relégué dans un parc des amitiés des peuples un tout petit peu excentré par rapport au centre-ville et sur la place ex-Lénine, qui sous Ferdowsi est devenue la place Ozody et qui était de nouveau renommée Dousti, donc amitié. On a érigé un autre monument. Maintenant, ce monument était consacré à Ismail Samani, le fondateur de la dynastie des Samanides. Donc, on continue notre petit tour de commémoration. On voit que la Bibliothèque nationale à Dushanbe, il porte le nom de Ferdowsi à partir de 1934, donc la première commémoration des milléniums du Shah Namé. Et ici, sur les façades essentielles, vous pouvez voir toute une panthéon des grands écrivains, poètes européennes, russes, soviétiques, tadjiks, persanes. Donc c'était très cosmopolite comme le choix. Et c'est un choix n'était pas uniquement donc dû à Tadjikistan. On peut voir exactement la même chose, le même style, le même choix des personnages à Bakou. Je ne veux pas vous élanger donc cette lignée visuelle, mais je vous montre plutôt la nouvelle bibliothèque nationale de Tadjikistan, qui est un monument beaucoup plus grand, qui correspond bien à ce goût de beauté qui était instauré à Tadjikistan. Mais ce qui n'est pas changé dans cette représentation, vous voyez ici, il y a toujours des bustes, donc le panthéon, il est toujours présent. Et ici, au niveau des commémorations, on trouve une rue de Ferdowsi à Dushanbe, de nouveau excentré. Donc c'est une rue de Ex-Koval, une rue qui était consacrée à un personnage soviétique, avec un sport club donc, qui porte aussi le nom de Ferdowsi. Mais ça, on trouve également à Erevan, à Bakou, à Samarkand. Vous trouverez absolument partout ces rues de Ferdowsi. Ce qui est le plus particulier par rapport à Tadjikistan, donc, c'est ces commémorations qui se passent au niveau des écoliers. Les enfants apprennent le livre par cœur. La classe 6, donc c'est à peu près 12-13 ans, les enfants font connaissance avec le texte général. Au niveau des classes 9 et 10, donc 16-17 ans, les enfants doivent apprendre par cœur des grands morceaux de Shah Namé, donc les réciter. D'autre part, il y a des olympiades qui se déroulent absolument partout au Tadjikistan pour les meilleures connaissances des Shah Namé. Donc ces olympiades, elles touchent les écoliers, les étudiants. Il y a également les olympiades qui touchent comme les dictées nationales, donc tous les citoyens du Tadjikistan. À part ça, c'est aussi amusant de regarder les prénoms des enfants. Selon le sondage qui a été réalisé à Dushanbe en 2013, en tête des prénoms qui ont été donnés aux enfants sortent les prénoms aux connotations religieuses. Muhammad, bien sûr, en tête de cette série. Mais d'autre part, il y a eu beaucoup de prénoms qui font des références directes à Shahnameh, comme Rustan, Sohrab, Siavush, ou pour les filles, Tahmina ou Farangiz. Et c'est assez amusant, donc ce n'est pas uniquement le résultat des efforts du gouvernement, mais c'est aussi le résultat des efforts de la télévision tadjik. Parce qu'en 2013, ils ont montré en boucle tous les séries télé, donc tous les films qui étaient tournés à l'époque soviétique, et la population était influencée de nouveau par ces classiques bien-aimés que par les séries télévisées qui étaient présentées justement à ce moment-là. Donc, et les prénoms du Shahnameh, ils partagent sa place avec les prénoms qui sont sortis des séries télévisées turques ou indiennes. D'autre part, le Tadjikistan, malgré la guerre civile, a fêté 93 encore un millénium de Shahnameh. Il y a eu plusieurs manifestations culturelles, un colloque, il y a eu des timbres postes qui étaient édités, et il y a eu un livre des actes de colloque qui était édité à ce moment-là, dont je vous cite le titre qui est tout à fait intéressant et important pour nos propos. Le Shahnameh, la plus grande création artistique dans l'histoire de la civilisation mondiale. Donc ce livre, il est vu jusqu'à maintenant comme le livre clé au Tadjikistan par rapport au Shahnameh. Par la suite, on a multiplié les rééditions des Shahnameh à tous les niveaux, au niveau des petites lectures pour les petits-enfants, jusqu'à la réédition en tadjik en 10 volumes du Shahnameh en 2008-2010. Et selon le président tadjik Rahmonov, c'est grâce à l'indépendance que le peuple tadjik, enfin, a pu avoir cette possibilité de lecture sans entrave des grands poèmes du Shahnameh. Du côté des arts de spectacle, donc la dernière réalisation, c'est le ballet Les Halles et Rodaba, qui était préparé par le théâtre académique de l'opéra et de ballet de Sadreddin à Dushanbe en 2016. Bien sûr, les compositeurs tadjiks ont aussi se référé à ces poèmes. Il y a eu beaucoup de pièces qui ont été faites à ces propos. Ce qui m'intéresse le plus, et je pense que ça correspond plus à ce séminaire, c'est la production scientifique. Il y a eu pas mal de choses qui ont été publiées dans le domaine de l'histoire et d'autres sciences humaines au Tadjikistan. Donc, je réfère de nouveau au président tadjik. Pendant 25 années de l'indépendance, il y a au Tadjikistan 120 thèses qui ont été soutenues. Donc, toutes les thèses confondues, les thèses de candidatskaya, donc c'est qui est équivalent à notre doctorat ici, et le texte de doctorskaya qui est l'HDR en France. Essentiellement, ces thèses ont été soutenues à l'Académie des sciences à Dushanbe. Il y a quelques-unes qui étaient soutenues à Khojent et seulement une thèse que j'ai vue qui était soutenue à Kurgantebe. Je n'ai pas pu lire tous ces 22 thèses, mais j'ai lu un certain nombre, plus que 30. Et donc, sans mettre tous les travaux au même niveau, je voudrais tirer quelques petites conclusions. Donc, en ce qui concerne le Shahnameh, il y a un certain nombre de thèses qui sont consacrées explicitement, uniquement au Shahnameh. Mais il y a d'autres parties de thèses qui traitent des sujets plus généraux, comme le poème d'amour romantique dans la poésie persane et tadjik, ou comme l'image romantique du cheval dans la poésie tadjik, ou comme le couleur dans la poésie tadjik. Bien entendu, donc, c'est toujours le Shahnameh qui occupe la place centrale. Ces thèses soutenues, ils touchent absolument tous les domaines des sciences humaines. Donc, il y a les thèses qui ont été soutenues dans le domaine de l'histoire, des philosophies, des psychologies, des linguistiques, de la littérature, des pédagogies aussi et de l'historiographie. D'autre part, je dois avouer, la lecture de cette thèse n'était pas trop simple parce que, bon, généralement, c'est une langue de bois qui date de l'époque soviétique avec une très bonne dose d'injonction de l'idéologie de l'époque de l'indépendance. Certains travaux ont beaucoup de passages qui sont sortis directement des productions soviétiques, donc on peut même parler des plagiat. En quelque sorte, cette thèse ressemble à un assemblage de données empiriques où on ne voit pas le portrait théorique, on ne voit pas aucune problématisation. Et d'autre part, la manière de formuler le sujet, comme vous voyez ici, il est un tout petit peu différent par rapport à la manière qui est adaptée à l'université en France. Donc, je vais essayer de présenter de manière très brève de quoi parle cette thèse. Il y a une partie des thèses qui traite plutôt les aspects linguistiques, donc elle se concentre sur les aspects textuels, elle analyse les épithètes, des verbes, des propositions. Il y a une autre partie, il développe plutôt des approches ethnographiques, anthropologiques, et donc le Shahnameh, il est étudié comme une source primaire pour étudier l'anthropologie des peuples iraniens, d'ethnographie des peuples iraniens pour étudier les coiffes des peuples tadjiks ou iraniens. Il cherche des épopées populaires, il cherche comment ça correspond à la tradition épistolaire et donc il cherche quelle était la symbolique des couleurs dans le Shahnameh. Donc, comme vous pouvez voir ici, la symbolique des couleurs dans la poésie classique persane tadjik. Mais il y a des thèses qui sont plutôt, moi je dirais, moralisateurs. Donc, ces thèses, ils regardent l'élaboration des qualités morales chez le Shahnameh, des transformations des idées pédagogiques qui étaient élaborées par Ferdowsi jusqu'à l'époque de l'indépendance. D'autre part, il y a, dans le domaine de l'histoire, on traite toujours le Shahnameh par rapport au mythe. On compare les réalités avec les mythes, le potentiel évristique des mythes. En ce qui concerne l'historiographie, c'est l'histoire des études du Shahnameh en Allemagne avant tout, en Angleterre et en Amérique. Bon, la France n'a pas été très intéressante. Donc, il y a des problématiques postmodernes aussi, les problématiques des genres. Certains auteurs disent justement que le Shahnameh, c'est un œuvre entièrement masculine, donc ici on a choisi le Shahnameh comme un symbole d'État, donc c'est plutôt les affaires des hommes et les femmes ont été écartées de ce processus. Donc plus traditionnel, ce sont des textes qui étudient le Shahnameh en le comparant avec les épopées russes. Parmi ces texte, il y a des choses assez intéressantes, un peu surprenantes. On étudie le Shahnameh du point de vue des chiffres. Donc, comment les chiffres ont été traités dans le Shahnameh. Et ce qui est le plus intéressant, donc c'est une étude, ce n'est pas une thèse, donc, qui a été écrite, entre autres, par un académicien tadjik, où il essaie de retrouver le code des Ferdowsi. Donc, pour cela, il procède de manière très, très savante. Moi, je ne suis pas compétente pour expliquer, mais en gros, il code les textes originaux en persane et les traductions en russe, en chiffres, à plusieurs niveaux, au niveau des phrases, au niveau des bytes, au niveau des mots, au niveau des lettres, au niveau des signes sans espace et avec espace. Après, ils font des opérations très intelligentes, très scientifiques. Et le résultat, à la fin de ces opérations, tous les textes sont identiques. Donc, la conclusion qu'ils ont trouvé le code des Ferdowsi. Probablement, je me trompe, mais il me semble qu'ici, il faut mettre un sort de pont vers cette littérature pseudo-scientifique qui est apparue en très grand nombre dans l'espace post-soviétique, notamment des travaux de Nassovsky et de Fomenko, où il essaie de réanalyser tous les systèmes de présentation de chronologie en disant que notre histoire elle est un peu fautive et qu'il y a beaucoup de répétitions. Il propose d'autres approches chronologiques, notamment donc Shahnameh, comme vous voyez, il propose dater un tout petit peu plus tardivement. Donc, Mais il est possible que donc on a des affaires avec vraiment de littérature pseudo-scientifique. Mais si on essaie d'analyser ces thèses de l'autre côté, on essaie de voir quelles idées ont été articulées dedans, on voit qu'il y a beaucoup d'idées qui sont très contradictoires et, on peut dire, conflictuelles. Les chercheurs utilisent assez allègrement toute une série de termes géographiques. Et finalement, on ne voit pas trop bien quels termes géographiques ils étaient utilisés et qu'est-ce que ça veut dire tel ou tel terme. Ils utilisent le terme Iran, qui peut être l'État, qui peut être tout l'espace persanophone, iranophone, persano tajik, tajiko-persan. Donc, ils utilisent le terme de l'Iran occidental, Iran oriental. Ils utilisent le terme le Maveranah, Kharasan, le Transoxiana, qui est un terme donc traduit par la suite. Ils utilisent également les termes étatiques comme l'Afghanistan, l'Iran et Tadjikistan. Et donc, et tout change à tous les niveaux. Donc, c'est difficile de comprendre à quel niveau il faut se placer. De même manière, c'est assez difficile de comprendre les positions des auteurs où ils se placent. Donc, ils peuvent parler par rapport à cet espace iranien, des peuples iraniens anciens, des iraniens orientaux, des iraniens occidentaux. Ils disent qu'il y a des mythes qui sont différents, qui sont les mêmes. La situation est encore plus compliquée avec la langue, parce que le Shahnameh est déclaré comme une langue, comme une source sûre et propre de la langue contemporaine tadjik. Mais la langue contemporaine tadjik est vue de temps en temps comme la langue iranienne tout court, comme la langue tadjiko-persane. Donc, et on ne sait pas exactement à quel niveau on doit se placer. D'autre part, les chercheurs cherchent toujours la protopatrie des Aryens, donc les Tadjiks ou les Iraniens, mais ils font descendre ces migrations à partir de ce point mythique par les deux voies, donc une qui va en Iran, l'autre qui va en Asie centrale post-soviétique. D'autre part, un autre sujet qui représente un sujet important pour les chercheurs, c'est comment il faut retrouver l'Iran et le Turan. Donc, on cherche comment il faut les caser géographiquement, comment il faut tirer les frontières entre les deux, comment il faut définir les toponymes et quelles étaient les différences des langues entre l'Iran et le Turan. D'autre part, le Shahnameh, il est vu comme un texte véridique, donc comme un texte qui retrace une vraie histoire. Et donc, il suffit de comparer le Shahnameh avec d'autres sources écrites et avec les données archéologiques pour reconstituer les données réelles, pour reconstituer l'ethnographie des peuples iraniens, pour établir donc les chaînes perdues de l'ethnogenèse ethnographique. Donc, d'autre part, pratiquement dans toutes ces thèses, donc, le Shahnameh est présenté comme l'œuvre, les meilleures œuvres de toute littérature universelle. Ce que je vous montre ici, c'est une diapositive qui était présentée dans une école à Dushanbe pour justement parler du Shahnameh. Donc, où c'est dit de manière explicite que c'est une culture, une des meilleures des cultures du monde, et que donc Ferdowsi a créé ses poèmes héroïques, Shahnameh, qui dépassent, selon son volume et le contenu, toutes les œuvres qui ont été faites donc, partout dans le monde. Voilà. Mais en gros, d'autre part, c'était dit très souvent que c'est une œuvre progressiste, que tous les chercheurs occidentaux qui s'intéressaient au Shahnameh, ils ont pu donc voir que c'est une œuvre progressiste, ils ont pris l'essentiel de ces œuvres progressistes pour faire une sorte de synthèse avec leur propre production dans leur propre pays. D'un coup, le Shahnameh devient une sorte de source pour pas seulement le Tadjik, pas seulement pour l'Iranien en général, mais pour le monde entier. Et surtout, il y a cette juste position avec les peuples turciques qui sont vus comme les peuples qui ont besoin de l'éducation, donc, et qui doivent également subir de cet éclairage de la part des peuples ariens. Donc, cette histoire des Ariens, c'est une idée qui est très répandue dans cette thèse. Les Tadjiks sont vus comme les descendants directs des Ariens. Pourtant, donc, en lisant toutes ces thèses, on voit bien que les chercheurs Tadjiks ne sont pas trop familiarisés avec cette philosophie qui était la philosophie des Troisième Reich. Donc, ils ne font pas aucun parallèle avec le régime nazi en Allemagne. Donc, d'où, justement, ils se peuvent permettre des parallèles assez aisés avec le Tadjikistan et avec l'Allemagne. Ils disent allègrement que ce sont des peuples proches, parce que ce sont les Ariens, qu'elles partagent beaucoup de traits communs. Et c'est évidemment, ça explique pourquoi c'est l'Allemagne qui était le premier État européen qui a ouvert l'ambassade à Dushanbe en 1993. Et d'autre part, donc, ça n'a pas empêché les Tadjiks, tout de suite après l'ouverture de l'ambassade, venir chez l'ambassadeur et proposer une idée, brillantissime bien sûr, d'organiser une colloque consacrée au peuple arien, à la culture arien, donc ensemble avec les Allemands. Donc, bien entendu, dans la même lignée, ça place l'idée que la route de la soie, une invention des géographes allemands, a été vue en Tadjikistan comme réellement existante, comme une pièce maîtresse pour construire l'histoire ancienne des Tadjikistan. Cette thèse, il nous montre bien que nous sommes dans un processus d'élaboration d'une nouvelle histoire nationale. Donc, en gros, on trouve exactement le même syndrome, la même idée, le même mouvement idéologique et intellectuel dans tout l'espace ex-soviétique. Donc, on trouve le nationalisme, le régionalisme, l'ethnocentrisme comme les pièces maîtresses. On voit que les élites intellectuelles sont devenues assez brusquement anti-soviétiques et essaient de réviser les manières d'écrire l'histoire qui était élaborée à l'époque soviétique. Donc, ils cherchent le sujet conflictuel, le sujet qui était gommé par l'historiographie soviétique, comme par exemple l'histoire de Basmachi ou la prise de Bukhara. Donc, ils essaient de réécrire l'histoire à partir de leur propre point de départ, l'histoire nationale. Donc, ce qui est important, on voit toujours qu'il y a cette tentative de remonter les origines des ancêtres le plus haut possible dans le temps. L'ethnonyme d'une nation titulaire, donc le Tadjik, doit aussi être monté très haut dans le temps. D'autre part, donc, il faut garder les spécificités nationales, ethniques, linguistiques. Donc, d'un coup, tous les mythes populaires ont été bienvenus pour prouver ça. Donc, le passé devient illustre, glorieuse. On choisit d'un siècle d'or, on fait un panthéon des héros et on souligne l'importance de la civilisation. Ce qu'il faut tenir compte, que même si c'est un processus commun pour tout l'espace post-soviétique, pour le Tadjikistan, ce processus il était influencé très fortement par la guerre civile qui a eu lieu entre 92 et 97. Toutes les discussions dans le domaine d'histoire qui étaient lancées juste avant la chute de l'Union soviétique a été stoppée de manière très brusque par le président et par les intellectuels eux-mêmes, parce que c'était visible que, par exemple, discuter des mouvements de Basmachi en pleine guerre civile, ça n'aide pas à réconcilier des partis qui étaient apaisé pendant cette période-là. Et d'autre part, donc, le but qui président a formé juste après la fin de la guerre civile, c'est consolider la nation, ne pas privilégier ni courant religieux ni courant civil, et trouver quelque chose qui peut être acceptable pour tous. Donc ils ont élaboré, essentiellement par les élites au pouvoir, une sorte d'idéologie nationale qui était définie comme Tadjikité. Donc, il fallait trouver cette formule qui pouvait réunir tous les Tadjiks, donc réunir un nationalisme ethnique et un nationalisme territorial, et faire en sorte pour que les Tadjiks puissent avoir une certaine fierté de leur passé, de leur histoire. Donc, c'est commencé avec un article que Rahmon a écrit en 1996. Après, c'est un article qui était transformé en livre, « Les Tadjiks dans le miroir de l'histoire », qui était traduit en toutes les langues et qui était présenté absolument partout. Donc ici, c'est une photo qui montre comme le livre a été offert à l'université à Koweït. En 2016, vous avez ici un monument qui était érigé à ce livre à Gissar, à côté de Dushanbe. Et là, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer un autre monument consacré à un autre livre. Donc, cette fois-ci, c'est le livre qui était écrit par le président turkmène, Turkmenbashi, Ruhname, qui explique également donc, l'histoire brillantissime et l'avenir qui sera également brillantissime. Donc, mais si on revient au livre du président Rahmon, et on analyse un tout petit peu, donc on voit ici que les Tadjiks sont présentés comme le peuple élu, donc que ce peuple élu, il contraste avec les tribus turciques, barbares, dangereuses, donc essentiellement ce sont les Ouzbeks. Le cercle géographique de cette Tadjikité, il dépasse largement les frontières nationales, donc il correspond au monde persanophone en général. D'autre part, les Tadjiks sont présentés comme les peuples autochtones, indigènes, donc c'est une des idées clés dans cette théorie. Il était toujours, depuis l'aube des temps, sur ce territoire, et c'est facile à prouver, donc ce que disent les chercheurs, et le président répète, par le critère des langues. La langue tadjik, c'est une langue parfaite. Tout le monde a parlé le tadjik dès l'aube des temps, donc de temps, et on peut toujours trouver des parallèles. Ça offre aussi la possibilité de créer les ponts avec le monde iranophone en général, avec les littératures illustres persanes, et donc tirer cette démarcation avec les peuples turciques qui sont des barbares. Cette opposition, elle est toujours été très importante, mais ça montre bien que cette vision de l'histoire, actuellement, elle est acceptée au Tadjikistan pratiquement sans discussion. Ça ne veut pas dire que les sujets de l'histoire contemporaine sont également acceptés. Donc ça, c'est plutôt les sujets de discussion. Mais c'est un concept qui est extrêmement conflictuel en soi, parce qu'on a toujours cette opposition, les Tadjiks, les Ouzbeks, iraniennes, les Turciques. Et donc, je ne veux pas vous présenter toute une série, parce qu'il y en a beaucoup. Je vous montre quelques épisodes qui montrent la nature donc, dangereuse de ce concept qui était élaboré au Tadjikistan, mais qui est en fait une sorte de miroir des idéologies qui étaient élaborées en Ouzbékistan et qui donc Ouzbékchilik, Ouzbékicité, exactement ce qui était fait à Tadjikistan. Donc, cette lutte entre l'Iran et le Turan, en gros, c'est une lutte qui se passe avec ce qu'on a entendu. Donc, il y a Afrasiab, le roi de Turan, qui se lutte avec l'ennemi de l'Iran. Et donc, d'un coup, pour les Tadjiks, Afrasiab, c'est le roi iranien. Et donc, parce qu'il est descendant des Turcs, qui est le fils de Feridun, et Feridun, donc c'est le roi iranien, et donc, et tout le peuple qui peuplait le Turan au moment où Tur a reçu le Turan, ce sont des tribus iranophones, donc les Sogdiens, les Khwarizmiens, les Bactriens, qui, bon, ce point de vue est partagé par beaucoup de chercheurs occidentaux. En revanche, aux Ouzbeks, ils ont élaboré une autre vision. Pour eux, Afrassiab, c'est un roi toranien, donc turcique. Ils disent bien que les Karakhanides, ils remontent leur dynastie vers le Shahnameh, mais donc ils gomment qu'il il y a les racines iraniennes. Pour eux, c'est les racines turques. Et donc, une des anciens directeurs de l'Institut d'archéologie à Samarkand, Timur Chirinov, une de ses sujets préférés, c'était donc des explications sur la base de Shahnameh, d'autres poèmes épiques, des sources littéraires et historiques, plus les données archéologiques. Donc, il a expliqué qu'on a des évidences que les premières populations, c'était les populations turciques. Donc, et le Shahnameh le prouve. Donc, d'un coup, ce peuple voisine, ils ne peuvent pas se mettre d'accord pour partager cet héritage culturel. Et quand l'Ouzbékistan, en 2003, a annoncé une année, donc l'année de l'Avesta, du côté tadjik, ça a provoqué une crise majeure. Le directeur de l'Institut d'histoire du Tadjikistan, Massov, il a déclaré que c'est un résultat d'un complot et que les Ouzbeks, ils ne veulent que détruire définitivement la grande civilisation tadjik. Donc, et là, ces trois figures les plus importantes au niveau intellectuel, des constructeurs de cette idéologie des Tadjikités. Donc, Rahim Massov, dont je vous ai parlé, c'était avec Shakuri, il était en tête des très grands mouvements intellectuels à l'époque, qui a commencé à avertir tout le monde sur ces dangers ouzbeks, pan-turcs, qui sont en train de néantir la grande civilisation tadjik. Ils ont écrit 89 une lettre à Gorbatchev, donc à l'époque soviétique, pour dire qu'il y a le processus dangereux qui se passe en Ouzbékistan. Il faut sauver les civilisations iranophones, notamment dans les villes de Samarkand et de Boukhara. Après 1997, il y a eu une pétition qui a été signée par les intellectuels tadjiks qui ont demandé de transférer ces villes à Tadjikistan même, parce que ce sont des villes donc historiques, de la culture historique. D'autre part, donc après, et quand même, ces discussions ont été gommées, mais l'idéologie a été formée et l'idéologie était basée sur les recherches des ennemis, des Tadjiks perdus, des Tadjiks dissimulés sous forme d'Ouzbeks. Donc, c'est également c'est un texte qui est sorti des Massov et de Shakuri, où ils se sont adressés aux intellectuels ouzbeks pour demander à reconnaître leurs racines tadjiks. Donc, et dans le perspective historique, ils ont dit que le sort si tragique du Tadjikistan s'explique par la traîtresse des intellectuels tadjiks qui n'ont pas su, à l'époque des délimitations nationales, prendre parole et dire qu'il faut créer le Tadjikistan aussi fort que l'Ouzbékistan. Mais ce qui est le plus important dans cette histoire, donc, c'est l'histoire des langues. Massov, il propose quand même récupérer l'héritage soviétique. Il dit qu'il faut continuer la tradition du tadjik en cyrillique. En revanche, notre académicien Shakuri, il dit que c'est les soviétiques qui ont anéanti la langue tadjik et qu'il faut revenir vers la langue tadjik classique, dont écriture arabe. Et d'autres personnages que vous voyez ici, Nigmatov, il n'a pas voulu entrer dans cette discussion sur la langue qui a pris détail absolument gigantesque, donc jusque à mener le président d'intervenir cette discussion qui est dépassée le cercle académique et qui était portée vers le large public. Donc Nigmatov, lui, il a écrit un livre. Donc maintenant, on écrit des thèses sur ce livre et sur Nigmatov lui-même. Donc le livre, il était intitulé « Le phénomène tadjik, théorie et histoire ». Donc lui, il a proposé voir plutôt du côté de l'histoire. Il a dit que le peuple tadjik a un très grand passé zoroastrien, parce que, évidemment, donc, ce sont des Aryens. en partant du Shanama, de l'Avesta, les données archéologiques, l'Enigmatov a formé un concept d'une macro-civilisation, je cite, macro-civilisation permanente et millénaire, arienne, avistique, zoroastrienne, islamique, irane, tadjik, civile et originale, qui a joué le rôle clé dans l'histoire de l'Eurasie. Donc, ce théorie qui était formé par Nigmatov, il a certains termes clés qui sont très importants pour comprendre comment fonctionne cette Tadjikité à l'heure actuelle à Tadjikistan. Donc, il y a le concept de protopatrie historique, il y a les patries historiques, il y a le concept de Tadjikistan historique, le territoire des peuples tadjiks en formation, il y a le concept le grand Tadjikistan, il y a le Tadjikistan contemporain. Donc tout ça, c'est de nouveau le système des couples, des poupées gigognes. À la base, il y a le concept de l'ethnos, le théorie de l'ethnos, c'est une dérivante de la théorie soviétique de l'ethnogenèse, qui montre bien que le peuple il se développe sur le même territoire, il fait le territoire, et c'est toujours le même peuple qui, donc on peut tirer une ligne directe de l'époque la plus ancienne vers l'époque la plus récente. Ce qui est intéressant chez Nigmatov, qui faisait aussi l'archéologie, pour prouver cette thèse, il utilisait ses propres trouvailles faites à Oustrouchana, et il largement ignorait tout ce qui était fait par les archéologues soviétiques, russes, donc de l'Ermitage, à Pendjikent, même si les trouvailles de Pendjikent illustrent quand même bien le Shahnameh. Il y a un autre élément qui a été exploré pendant ces années de recherche, donc c'est associé à l'identité tadjik, les traditions musulmanes sunnites. Donc ça, c'était rejeté par le président lui-même parce que, d'une part, c'est conflictuel par rapport à l'ismaélite qui habite dans le Pamir, et d'autre part, si on reconnaît ça, quoi faire avec les Iraniennes qui ne sont pas sunnites mais qui sont chiites. Donc dans ce cas-là, l'unité du Shahnameh, il est également remise en question. Donc ce qui est intéressant pour nous, c'est voir comment dans ce processus d'élaboration d'une idéologie nationale, on a élaboré également les symboles étatiques. Donc en principe, tout ce qui doit réunir les gens, dans le cas de Tadjikistan, ça peut également miner l'identité nationale, comme on a dit déjà les questions des langues. Donc ça, c'est aussi intéressant, le statut des langues au Tadjikistan. Tout de suite, après la chute de l'Union soviétique, la langue tadjik a été définie comme la langue nationale dans la Constitution, mais entre parenthèses, était indiqué que c'est farsi. Après quelques années, la constitution a été changée, farsi a été rejetée et donc c'est resté uniquement la langue tadjik. Avec la fin de la guerre civile, on a de nouveau révisé la constitution et on a remis la langue tadjik farsi, qui est devenue de nouveau la langue nationale. Donc, mais je dois reconnaître une chose, que par rapport à l'Ouzbékistan, à Tadjikistan, on est beaucoup plus libre. Et les scientifiques, ils peuvent discuter et s'exprimer sur certains symboles. Donc, ça donne des discussions, de vraies discussions, et ça donne une possibilité d'analyser les symboliques nationales. Donc, les chercheurs sont conscients que ce sont des intellectuels qui élaborent cette symbolique, et d'autre part, ils disent que donc on peut trouver des figures qui peuvent servir de figures de compromis, comme les figures des Roudaki, le poète persan, qui était tout au début vu comme une figure qui équilibrait bien le discours pan-iraniste et tadjik-nationaliste. Mais le problème, dans le Tadjikistan, il faut toujours recaler les prétentions culturelles sur l'espace qui est limité aux frontières nationales. Et même si dernièrement on ne discute plus de changement des frontières, quand même ça reste dans la discussion. Et donc, notamment, ces changements de symboles nationaux. Ferdowsi, comme Urdaki apparemment, n'était pas suffisamment tadjik. Ferdowsi, il est né au Khorasan, et bon, si Urdaki est né à Pendjikent, ils ont écrit en personne, en tadjik, comme ils disent, classique. Et c'était pas, c'est donc un autre symbole a été choisi, donc le symbole d'Ismaïl Samani, qui, selon les chercheurs tadjiks, doivent servir les meilleurs centres de tous les intérêts de toutes les populations. Donc, mais là, il faut aussi tenir compte que on ne peut pas prouver ça si on n'utilise pas la théorie de l'ethnogenèse, donc les Aryens, les Samanides et les Tadjiks. Et d'autre part, donc, si on ne traite pas l'histoire du point de vue un peu idéaliste. Donc, parce que Samani est présenté comme un gouverneur très sage, paru de toutes les grandes vertus, et qui a su faire épanouir la culture, la littérature, la science. Dans le cadre de son état. Ce qui est intéressant, selon le président tadjik, entre les civilisations aryennes, donc les zoroastriennes, et les civilisations de Samani, il y a des liens qui ne sont pas visibles, mais qui sont intrinsèques. Donc, ils sont là. Et donc, en grande partie, les grandes vertus d'Ismaïl Samani, ils sont venus du fait qu'il a su récupérer le génie aryen. Et donc, cette intelligence aryen, il a su le réaliser au niveau l'état samanide. Rapidement, le symbolique de ce monument, il est beaucoup plus complexe que le monument à Ferdo aussi. Ici, on a le Coran, donc le Tadj. Les Tadjiks ils remontent leur ethnonyme à cette terminologie. Les sculptures d'Ismaïl Samani, il est tout à fait pacifiste parce qu'il fallait qu'il réunisse les peuples après la guerre civile. Il tient le sceptre de pouvoir avec les sept étoiles. Donc, les mêmes sept étoiles, elles sont sur le Caron. Mais cette fois-ci, c'est cette région du Tadjikistan. Ce n'est pas cette région qui sont évoquées dans l'Avesta pour justement faire plutôt recadrer dans le cadre des frontières nationales. D'autre part, vous avez ici des figures des lions, le symbole de stabilité. Sous le colline, il y a une salle où il y a une petite copie du mausolée de Samani de Boukhara avec un tout petit pot de terre sacrée de Boukhara, donc justement pour constituer toute cette tadjikité. Donc, et là, il y a aussi une carte en marbre qui montre bien le grand Tadjikistan. Donc, c'est ça le problème, qu'à l'époque, on a eu le grand Tadjikistan, maintenant, il n'y a plus de grand Tadjikistan. Donc, il faut trouver pourquoi. Et donc, ça ouvre la porte à toutes les spéculations, à toutes les théories des complots, des ennemis, et ça donne la place à ce sentiment de victimisation qui est quand même assez fortement présent. Ce qu'il faut reconnaître, que le Tadjikistan, il a toléré pas mal les symboliques soviétiques, même par rapport à l'Ouzbékistan, c'est très parlant. Donc, cette sculpture soviétique qui représente le blason soviétique, elle est restée jusqu'en 2014, quand il était remplacé par ce monument qui montre déjà les symboliques donc purement nationales. Il y a encore le statut de Lénine à Tadjikistan. Donc, en gros, c'est le dernier pays de l'Union soviétique qui garde encore les statues de Lénine. Et ça, c'est donc une des dernières épisodes assez drôles que je voudrais vous montrer. Donc, les discussions qu'il y a eu, quel personnage il faut choisir pour les monnaies tadjiks. Donc, à l'année 2000, ils ont fait introduire le nouveau monnaie, Samani. Et bon, là, évidemment, il y a Ismaïl Samani, mais le personnage le plus controversé, c'était Roudaki. Le billet avec Roudaki, il est paru seulement en 2010, parce qu'au début, ils n'ont pas voulu le prendre. Pourquoi ? Parce que Roudaki, il était aveuglé par le petit-fils d'Ismaïl Samani, donc cet épisode, il est terni un peu la dynastie des Samanides. Et d'autre part, Roudaki, il était vu comme le père fondateur de la langue classique tadjik, donc farsi, en écriture arabe. Mais il y a déjà un personnage qui est notre père fondateur de la langue tadjik, c'est Sadreddin Ayni, sauf que Ayni, il a proposé le tadjik en cyrillique. Donc, c'est créé une situation de conflit. Et jusqu'en 2010, Rudaki n'était pas traduit. Ferdowsi n'est pas apparu parmi ces personnages parce qu'il était trop pan-iranien, donc il n'était pas suffisamment tadjik. Cette politique, comme vous avez vu, un peu en zigzag, quel personnage il faut choisir, ou le siècle d'or, il était fortement critiqué par les Tadjiks eux-mêmes, et notamment il est critiqué actuellement parce que maintenant il y a un nouveau symbole, c'est l'imam Abu Hanifa ou l'imam Azam. Donc, les studios Tadjik Film, il vient de tourner en 2016 un film documentaire que présente ce nouveau personnage, un nouveau héros, qui est censé faire une barrière à l'islamisme global, donc, et qui doit promouvoir l'islam plus doux, et qui n'est pas si radicalisé. Parce que les craintes des intellectuels tadjiks aujourd'hui, que pour les islamistes, il n'y a pas de frontières, l'islam est global, et il n'y a pas de fête nationale. Les islamistes ne reconnaissent pas notamment le Nowruz. Donc, pour finir cette présentation, je voudrais dire que ce n'est pas uniquement les Tadjiks d'aujourd'hui qui sont les créateurs de cette idéologie. Comme je dis au début, les racines sont profondes. Et derrière le livre du président Rahmonov, donc le Tadjik dans le miroir de l'histoire, on voit ce livre de Babajan Ghafurov, qui donc, a été écrit, donc la nouvelle édition, si on peut dire en coproduction avec Litvinsky, bien que, comme a dit Litvinsky, c'est lui-même qui a écrit le livre, il était signé par Ghafurov. Mais donc, toutes les idées de base sont là, et notamment cette vision de l'histoire téléoscopique où on a le Grand Tadjikistan, et donc sous cette marque du Grand Tadjikistan, on a l'histoire de toute l'Asie centrale qui est passée en revue. Et au niveau, donc, la même chose avec le Thierry Arien, donc ce n'est pas une explosion qui date d'aujourd'hui, c'est les chercheurs tsaristes, donc de l'époque de Russie impériale, qui ont cherché le proto-patrie des peuples iraniens qui était placé notamment au Pamir, parce que les gens là-bas ont les yeux bleus ou verts, ils sont très clairs. Et donc il y a une très longue tradition qui quand même était tout simplement développée par les Tadjiks. Et d'autre part, comme j'ai déjà dit, les Tadjiks n'ont pas tourné leurs films du Shahnameh, ils ont recyclé les films qui ont été tournés à l'époque soviétique, pendant les années 70, 71, 79. Donc, et ces personnages, ils sont vus jusqu'à maintenant comme les personnages clés, donc ce sont des films de Boris Koniagarov, et ce qui est assez intéressant, qu'il s'est fait rapprocher que les personnages principaux comme Rustam ou comme Tahmina a été joué par les acteurs qui ne sont pas tadjiks. Donc Rustam, elle était un acteur assiette et Tahmina, c'était une actrice ouzbèque. Donc et maintenant, à titre posthume, c'est très fortement rapproché à ce metteur en scène parce que ça touche la fierté nationale tadjik. Sur ces paroles, je vous dis merci beaucoup pour votre attention.